France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ce jour-là, celui que nous allons raconter aujourd'hui, une ville entière croyait être soulagée, en paix, libérée de ses cauchemars. Mais tout allait vite dégénérer et tourner au malheur. C'est le jour de la tragédie du roi Créon et de la princesse Antigone, fille d'Œdipe. Excusez-moi, mais encore une fois, ce ne sera pas gai. Mais Antigone quand même, l'intransigeante, nous donne une belle leçon d'énergie. Et cette énergie est vraiment revigorante. Tout avait bien commencé. Thèbes, la ville glorieuse et magnifique, le joyau de la Grèce ancienne, a échappé à un grand désastre. La ville est sauvée, elle respire. La catastrophe a été évitée la veille, lors d'une grande bataille, qui restera longtemps dans les mémoires, et que nous avons évoquée la semaine dernière.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'Antigone n'a jamais existé.
Jacques Lacarrière.
Chaque fois qu'on parle d'Antigone, on parle de nous. Hein. Antigone, ce n'est pas Marie-Antoinette. Il n'y a pas de document historique, c'est une invention. Sophocle lui donne, lui confie un rôle, dans tous les sens du terme, exceptionnel, à savoir qu'Antigone, désormais, existe individuellement et non plus uniquement comme la fille d'Œdipe ou la fille de Jocaste ou la sœur d'Éteocle et de Polynice. Et ça, c'est le premier surgissement dans le théâtre d'un personnage qui émerge comme un solo instrumental dans un concert, dans un orchestre, voyez.
Sept chefs grecs, sept capitaines fous de guerre étaient venus assiéger la ville de Thèbes. Ces grands héros, chacun avec son armée, chars, guerriers lourdement cuirassés, archers, frondeurs, se sont rués contre les portes de la ville, contre les sept portes légendaires du rempart de Thèbes. L'assaut a été rude. Les agresseurs étaient déterminés. Ils avaient trempé leurs mains dans le sang d'un taureau égorgé et juraient qu'ils ravageraient la ville de Thèbes de fond en comble. Sinon, ils étaient prêts à mourir et à engraisser de leur sang la terre thébaine. La victoire totale ou la mort. Eh bien, ils sont tous morts. Les dieux n'étaient pas avec eux, Thèbes et Sceaux. Il faut dire que ces chefs avaient fait fort contre les dieux en matière de blasphème, d'orgueil, de vantardise. L'un d'entre eux s'est rué contre la ville en proclamant que la foudre de Zeus ne l'impressionnait pas plus que la chaleur du soleil à midi. Zeus l'a bien entendu et l'a foudroyé net alors qu'il escaladait le rempart. Il en est retombé calciné, éparpillé façon puzzle.
Du haut de l'échelle jaillissait comme d'une fronde ses membres disjoints. Sa chevelure vers l'Olympe, son sang vers le sol, ses bras et ses jambes, comme sur la roue d'Ixion, tournoyés. À terre, en feu, tomba son cadavre.
Cette guerre spectaculaire était menée par l'un des deux fils d'Œdipe, Polynis, Polynaïkès, dont le nom veut dire haine nombreuse, querelle nombreuse. Ce fils d'Œdipe avait été chassé de sa ville natale, Thèbes, par son frère Éteocle, pour des raisons qui ne sont pas très claires et qui varient selon les versions du mythe. Éteocle régnait seul sur la ville de Thèbes. Il avait contraint son frère Polynis à l'exil, mais Polynis voulait à tout prix retrouver ses droits sur sa ville. Il a levé une très grande armée, composée de 7 contingents, avec à la tête de chacun un grand héros, un grand champion. Ces 7 chefs étaient magnifiques. Ils traînaient avec eux de grandes légendes. Ils représentaient ce qu'il y a de mieux dans la noblesse grecque. Mais leur cause était perdue d'avance. Ces grands guerriers cherchaient la gloire et la richesse en pillant une ville fastueuse. Ils pensaient mener une guerre juste puisque leur héros, Polynis, avait été brutalement privé de ses droits sur sa ville, Thèbes, par son frère Éteocle. Mais cette entreprise était insensée. Tout d'abord, ces grands guerriers n'étaient pas à un excès ou à une contradiction près. Il pensait agir au nom du droit de Polynis. Il pensait défendre son droit légitime à régner sur Thèbes à la place de son frère. Mais en fait, il se proposait tout simplement de ravager la ville, de la fracasser. pour la ville de Thèbes, il ne s'agissait pas d'une simple querelle de légitimité entre deux frères ennemis, Éthéocle et Polynice. Il s'agissait tout simplement de survivre, d'éviter les massacres, les viols, les pillages qui sont le lot de toute guerre, juste ou non. Même si Éthéocle était en tort vis-à-vis de son frère Polynice, cela n'était pas du tout la question pour les habitants et les habitantes de Thèbes. Pour eux, il s'agissait de se défendre, d'écarter définitivement la vague désastreuse qu'était l'assaut ennemi. Ils y sont arrivés. Le rempart a tenu bon. Thèbes peut vivre. En plus, ses chefs, Polynice comme les autres, n'avaient rien compris à cette guerre, à ses raisons. Ils pensaient mener une action guerrière normale, comme tout bon héros grec, fier et bien armé, pense devoir le faire. Ce qu'ils ne voyaient pas, et que pour les dieux, cette guerre n'avait en fait qu'un seul but. Éliminer d'un seul coup les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, faire qu'ils se massacrent l'un l'autre dans un duel à mort. Les dieux avaient décidé que ces deux fils ne pouvaient pas continuer à vivre. Éthéocle et Polynice avaient été maudits par leur père Oedipe, et les dieux Apollon le premier veillaient à ce que cette malédiction se réalise. Oedipe avait maudit ses fils parce qu'il lui avait manqué de respect. Oedipe était confiné dans son palais, aveugle. Oedipe s'était en effet crevé les yeux quand il avait compris son histoire, quand il s'était rendu compte qu'il avait été l'assassin de son père Laios et que la reine de Thèbes qu'il avait épousée et aimée, Jocaste, était en fait sa mère. Il s'était rendu coupable de deux monstruosités, le parricide et l'inceste. Jocaste et lui avaient eu 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Ces enfants étaient à la fois les enfants d'Oedipe et ses frères et sœurs. C'était monstrueux. Le temps passe, les enfants grandissent. Les 2 fils, Éthéocle et Polynice, sont en charge de la famille, du palais. Un jour, ils servent à Oedipe un repas qui ne lui convenait pas. Le vieux père s'enrage, devient furieux et les maudit. Ses fils, qui l'ont si mal nourri, ne pourront jamais s'entendre. Il leur annonce qu'ils vont s'entretuer. Ils ne partageront pas son héritage pacifiquement, mais par la guerre. Et cette guerre les fera mourir tous les deux. Elle les mettra à égalité par leur élimination. Et de fait, c'est ce qui a eu lieu. Éthéocle et Polynice sont morts, tous les deux, en s'affrontant devant une porte de Thèbes. La ville est sauve, mais Oedipe a réalisé, avec l'aide des dieux, la destruction de sa propre famille. Cette famille a été maudite, pour toujours. La vie a pris parfois des aspects plus heureux, prometteurs, mais l'illusion ne dure pas longtemps. Ainsi, Antigone, l'une des 2 filles d'Oedipe, semblait promise à un bel avenir. Elle est fiancée au jeune Aemon, le fils d'un homme très puissant à Thèbes, Créon, le frère de Jocaste. On pourrait croire que ce mariage va permettre à la famille d'oublier son passé et de continuer à vivre normalement. Mais non, les dieux ne le veulent pas. Nous en sommes là, au lendemain de ce jour de guerre et de deuil, le jour d'après. Comme Éthéocle, qui était le roi de Thèbes, est mort, c'est à Créon, le frère de Jocaste, qui confiait le pouvoir sur la ville. Son nom, Créon, veut simplement dire qu'il est puissant, qu'il est un homme de pouvoir, un pur nom de roi. Thèbes, la ville sauvée, victorieuse, pourrait croire que tout ira bien désormais, que le calme est revenu. Il n'y a plus de menaces extérieures. Et la famille d'Oedipe, famille criminelle s'il en est, n'est plus au pouvoir. Elle s'est auto-éliminée. Thèbes peut croire qu'elle est enfin délivrée du malheur, des tragédies qu'elle a connues avec Laios, avec Oedipe et Jocaste, puis avec Éthéocle et Polynice. Mais le malheur, la tragédie vont surgir à nouveau, inattendues. C'est l'histoire catastrophique de Créon et d'Antigone.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
No matter what the fact is, whenever the truth is revealed, you don't change your mind, such a shame. I know the rainbow's not real, but But you can make real love songs with it. And you believe hatred makes good melodies. Don't get me wrong, but you're so wrong. The way you see the world is wrong. Never forget we are made from love, love. Don't get me wrong. Don't get me wrong. No matter. Whenever the truth is unveiled, you don't change your mind. Such a shame. Whoa, whoa. You would say misconception, but nothing can cover up lies, and you believe false words have more power. Don't get me wrong, but you're so wrong. The way you see the world is wrong. The world has no chance with those who lie and lie.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Antigone, la princesse rebelle.
La perception que j'ai, je trouve que le nom d'Antigone contient déjà, en fait, le sens de la pièce.
Hans Wissmann, historien.
Antigone, on peut l'entendre par « né contre ». Contre quoi ? Pas contre les hommes, pas contre la cité, pas contre... Non, elle est née contre elle-même.
Le premier poète qui nous raconte cette histoire est Sophocle, dans une de ses tragédies, Antigone. Nous ne connaissons pas d'autres textes avant lui. Sophocle a écrit cette tragédie Antigone, paroles et musique, la mise en scène et l'a présentée à Athènes au théâtre de Dionysos, au printemps de l'année 442 ou 441 avant Jésus-Christ. Contrairement à Eschyle et à Euripide, Sophocle n'y figurait pas comme acteur. Il ne jouait pas dans ses pièces. Il paraît qu'il avait une trop petite voix pour faire l'acteur. On disait qu'il était microphonos, microphone. On dit que la pièce Antigone a eu tellement de succès que Sophocle a été juste après élu par les citoyens membre du corps des 10 stratèges d'Athènes, c'est-à-dire qu'il a été élu général, chargé des opérations militaires de la ville. Il partageait cette charge, entre autres, avec Périclès. Comme stratège, après son élection, Sophocle a mené une rude campagne contre l'île de Samos, dans la mer Égée, où un regroupement antidémocratique avait tenté une dissidence contre Athènes. Sophocle a participé à la répression violente de cette dissidence et a même mené une bataille navale. La flotte adverse était conduite par un philosophe, un élève du grand Parménide. Imagine-t-on Samuel Beckett, prix Nobel de littérature, être nommé général d'active à cause du succès de sa pièce En attendant Godot et diriger un corps expéditionnaire. À Athènes, c'était possible. L'art théâtral était partie prenante dans la vie politique de la cité. L'art n'en était pas moins inventif, libre et non conventionnel pour cela, au contraire même. L'art n'était pas une affaire privée et on attendait beaucoup de lui. Le public athénien était connaisseur et exigeant. Il fallait savoir l'étonner. Il vaut le coup de suivre cette pièce de Sophocle Antigone, elle est fascinante. Dans sa pièce qui se passe à Thèbes, au lendemain de la victoire, le poète Sophocle fait entendre la joie des habitants. Les 15 membres du chœur, 15 vieillards thébains, chantent la grande lumière heureuse qui s'est répandue sur Thèbes, leur ville miraculée.
Rayon du soleil, la plus belle lumière qui ait jamais lui sur Thèbes aux 7 portes, tu as lui à la fin, œil d'une journée d'or, tu es arrivé au-dessus des flots de Dircé. L'armée ennemie était venue en grand équipage, le bouclier blanc d'Argos, et tu l'as jeté avec une bride mordant vif dans une course fuyante.
Cette armée que sur notre terre, Polynice la haine, ne se contentant pas d'une dispute de mots, couvrit de son vol avec des cris aigus, comme l'aigle crie vers la terre. Ses armes nombreuses la couvrent d'une aile de neige blanche avec les crinières de ses casques.
Il s'est arrêté au-dessus des maisons. La gueule béante de ses lances sanguinaires faisait le tour de la bouche des 7 portes. Il a passé. Il ne s'est pas gorgé les joues de notre sang. Et le feu d'Héphaïstos, nourri de résine, n'a pas saisi la couronne des remparts. Victoire est venue. Grand est son nom. Elle était joyeuse de la joie de Thèbes, la ville des chars. Que l'oubli s'installe après la guerre de ce jour d'hier.
Un jour de lumière s'annonce. La victoire peut effacer à jamais le passé. L'oubli peut permettre à la ville de renaître. À Athènes, là où était jouée cette pièce Antigone, l'oubli des conflits, des complots, des guerres civiles était la règle. La cité devait oublier, pensait-on, pour refaire son unité. Mais à Thèbes, l'oubli n'aura pas lieu. Tout va basculer tout de suite. Le désastre, la tragédie vont encore montrer leur visage. Le passé ne passera pas. Il ne sera pas oublié. Il reviendra, mais de façon tout à fait inattendue. Au lendemain de la guerre, le tout nouveau roi Créon annonce une décision politique radicale. Il décide que la ville honorera le cadavre d'Éthéocle, puisque son action a sauvé la cité. Éthéocle est mort au champ d'honneur. Mais Créon décide que la ville n'honorera pas le cadavre de son frère Polynice, car ce frère, même si à l'origine il est un Thébain, a attaqué sa ville. Il a voulu la détruire avec une armée étrangère. C'est un traître. Son corps sera laissé à l'abandon, en dehors de la ville, et sera mangé par les oiseaux et par les chiens. Pour Polynice, ce sera le déshonneur suprême. Quiconque ne respectera pas cette décision, quiconque se mettra à pleurer Polynice, sera condamné à mort et tué par lapidation. Créon veut faire place nette. Il veut libérer définitivement Thèbes de son passé tragique. Des malheurs, des souillures que la famille royale, Laios, Œdipe, Éthéocle et Polynice, lui a imposés génération après génération. Une page doit être définitivement tourné, et pour cela, il suffit d'exclure de la ville le dernier coupable, Polynice, et de laisser pourrir son corps en dehors des remparts. Thèbes montre comme ça qu'elle a vraiment rompu avec son passé. Laisser le cadavre d'un ennemi ou d'un criminel pourrir à l'air libre n'était à l'époque pas considéré comme scandaleux. C'était même une pratique normale. Les Athéniens faisaient cela quand ils précipitaient les criminels condamnés à mort dans une faille rocheuse et les y laissaient. C'était infamant, mais c'était la règle. Pour le public grec, la décision de Créon n'est en soi pas ignoble. Elle désigne Polynice comme ennemi public de la cité. Les deux frères avaient grandi ensemble, avaient été maudits ensemble par leur père dans une même malédiction. Ils se sont tués ensemble. Le nouveau roi décide de les séparer. L'un est traité en héros national, l'autre est jeté aux bêtes. Antigone, la sœur d'Éthéocle et de Polynice, va se révolter fermement contre cette séparation, contre cette discrimination. Elle protestera de toutes ses forces et agira contre la décision de Créon. Elle décidera d'aller, elle, enterrer son frère Polynice, malgré l'interdiction. On ne sait absolument pas si la figure d'une Antigone révoltée existait avant la pièce de Sophocle. Les poètes plus anciens, Homère, Hésiode et les autres, ne mentionnent jamais cette fille d'Œdipe. Un vague témoignage nous dit qu'un poète tragique aurait, un peu avant la pièce de Sophocle, raconté l'histoire suivante. Éthéocle avait un fils. Ce fils, aurait enfermé et brûlé vives les deux filles d'Œdipe, Antigone et Ismène, dans le temple de la déesse Héra à Thèbes. Peut-être parce qu'elles ont voulu honorer le cadavre du frère ennemi, Polynice. On n'en sait trop rien. Il n'est pas impossible que toute l'histoire d'Antigone soit une invention de Sophocle. Au lever du jour, Antigone court retrouver sa sœur Ismène. Elle a entendu parler de la décision prise par Créon. Antigone est révoltée. Elle a décidé de ne pas obéir et pense que sa sœur Ismène pensera comme elle. Elle n'imagine pas qu'Ismène ne la suive pas. Elles sont de même sang et tellement semblables.
Ô visage de mon Ismène, ma pareille, ma toute fraternelle.
Ce sont les tout premiers mots de la pièce. Ils donnent le ton. Pour Antigone, la décision abominable de Créon de ne pas enterrer Polynice ne fait que prolonger les malheurs que les dieux, Zeus en tête, ont infligés depuis le début à Œdipe et à toute sa famille. C'est la même histoire qui continue. Il n'y a rien de nouveau. Créon, selon Antigone, ne serait que l'instrument de la méchanceté des dieux contre tous les deux enfants d'Œdipe, les seuls qui survivent après la mort de leur mère Jocaste, de leur père Œdipe et de leur frère Étéocle et Polynice.
Sais-tu bien que de tous les malheurs qui nous viennent d'Œdipe, il n'y en a pas un que Zeus ait laissé inaccompli pour toi et moi, les survivantes. Rien que de la souffrance. Rien qui échappe au désastre. Rien. Aucune laideur, aucune humiliation que je n'ai vue accroître ton malheur et le mien.
Pour Antigone, la tragédie qui s'est abattue sur la famille depuis plusieurs générations ne fait que continuer. Antigone annonce à sa sœur Ismène, qu'il ignorait, la décision du nouveau roi Créon de laisser pourrir le cadavre de leur frère. Antigone demande à Ismène de se révolter avec elle contre cette décision ignoble et d'avoir le courage de l'aider. Elle, Antigone, a décidé d'aller enterrer le corps de Polynice, même si en faisant cela, elle risque la mort. Elle demande à sa sœur d'être fidèle à sa famille, malgré la menace de mort qui pèse sur ceux qui désobéiraient à Créon.
Voilà où tu en es, et tu feras vite voir si tu es bien né ou indigne d'une noble famille.
Être fidèle à sa famille pour Antigone, c'est être noble, royal. C'est ne pas se laisser impressionner par une décision politique arbitraire. C'est aussi être fidèle au malheur de la famille, à son destin, et oser, comme tous les autres membres de cette famille, affronter la mort. Ismène, qui tient à la vie, refuse de la suivre.
Ismène.
Mais ma pauvre, que puis-je gagner si les choses en sont au point que tu dis ?
Antigone.
Vois si tu veux partager la peine et l'action.
Ismène.
Dans quelle aventure ? Jusqu'où as-tu pris la décision d'aller ?
Antigone.
Vois si tu voudras aider ma main à soulever le corps.
Ismène.
Tu penses donc l'enterrer alors que défense en a été faite au nom de la ville ?
Antigone.
Oui, enterrer mon frère et le tien si tu ne veux pas le faire. Ce n'est pas pour l'avoir trahi qu'on m'arrêtera.
Ismène.
Tu n'as peur de rien ? Créon le défend.
Antigone.
Il n'a aucun titre pour me séparer des miens.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
You've been on my mind.
Pierre Judée de la Combe parle d'Antigone, fidèle à ses morts. Julia Sissa, historienne.
Je crois que ce qui est important, c'est de voir comment la tragédie peut représenter le féminin, justement en termes d'initiative, d'autodétermination, de force dans l'acte. C'est la manière dont les femmes sont pensées en Grèce comme capables d'agir et comme capables d'être à l'origine de leur action. Je crois que c'est très important de regarder justement ces figures de l'imaginaire grec, de la tragédie grecque, pour mesurer jusqu'à quel point le féminin est pensé fort et puissant, peut-être dangereux, mais non seulement dangereux, actif, je dirais, et autodéterminé.
La famille pour Antigone est un bloc que rien ne doit briser. Mais le désaccord des deux sœurs est tout de suite bien visible. Antigone sort de la ville pour aller enterrer, seul, leur frère Polynice qui gît dans la plaine, hors des murs. Ismène rentre dans le palais familial. On attend le roi. On attend qu'il explique sa décision, qu'il l'argumente. Ce qu'il ne tarde pas à faire dans une proclamation solennelle, une sorte de discours d'investiture, lui qui vient d'être nommé roi de Thèbes. Le discours du roi Créon ne s'adresse qu'aux hommes de la ville, les femmes ne l'intéressent pas. D'abord, Créon, qui est un homme très pieux, commence par remercier les dieux. Ils ont sauvé Thèbes.
Hommes, les affaires de la ville ont été redressées sûrement par les dieux, qui les avaient secouées sur une grosse mer.
Puis, il annonce son programme. Il dit comment il compte exercer le pouvoir, et surtout, il dit ce qu'est pour lui la politique. Pour Créon, tout est politique. Comme on disait il n'y a pas si longtemps chez nous. La famille, l'individu, le bonheur, la société n'existent que par la politique. La condition du bon fonctionnement de tout ce qui est public ou privé, individuel ou collectif, est une cité en bon ordre et en sécurité. Rien n'est plus fondamental que la cité.
Quiconque fait plus de cas de son parent que de son pays, cet homme, je dis qu'il n'a de place nulle part. J'en atteste Zeus, qui voit tout et toujours. Jamais je ne me tairai si je vois la ruine fondre sur la ville au lieu du salut. Et jamais je ne me ferai un parent d'un homme qui veut du mal à ma terre, sachant bien que c'est elle qui sauve et que c'est seulement lorsqu'un navire va droit que nous pouvons nous faire des parents. Voilà les lois sur lesquelles je fonde cette ville.
Polynice, fils d'Œdipe, est un parent de Créon, puisque Créon est son oncle maternel. Mais cela ne compte pas. Polynice n'existe plus. À partir du moment où il s'en est pris à la cité. Il n'a de place nulle part. Il n'est plus rien du tout, et il sera jeté en pâture aux chiens et aux oiseaux. La cité, la politique, décide de tout. C'est elle qui fait qu'on est un parent, ou non. Le discours du nouveau roi est net, clair, tranchant et assuré. Mais grande surprise. À peine ce discours est-il prononcé, que le roi apprend qu'il a été désobéi. Un membre de sa garde se présente devant Créon. Il est penaud, hésitant, paniqué même, tant ce qu'il doit lui annoncer est déplaisant. Le garde annonce au roi que quelqu'un a commencé à donner une sépulture à Polynice. Le cadavre a été recouvert d'une couche de poussière. Le garde raconte qu'il venait de prendre son tour de surveillance le matin dans la plaine de Thèbes, là où gît le cadavre. Quand il voit que quelqu'un, il ne sait pas qui, a accompli les premiers rites funéraires pour Polynice, il n'y a aucune trace autour du corps, pas de trace de coups de pelle, de pas, pas de terre remuée. Tout est lisse, mais le corps est recouvert de poussière. C'est à n'y rien comprendre. Le garde a peur de la réaction de Créon. Les vieillards qui font le cœur se demandent si ce n'est pas là un signe des dieux. Créon est furieux. Pour lui, il n'y a qu'une seule puissance qui ait pu défier aussi ouvertement la sienne, c'est celle de l'argent. L'argent est, selon lui, à l'origine de toutes les crapuleries dans ce monde, puisque tout peut s'acheter. Quelqu'un, dit Créon, s'est laissé corrompre. Un complot s'est monté contre lui, contre le roi. Créon soupçonne tout le monde, le garde, le cœur, de manigancer contre lui. Il se méfie de tous, car tout le monde est cupide et peut trahir son pays par goût du profit. Bref, à peine nommé roi, Créon développe la paranoïa politique que connaissent tant de chefs. Et cela en dit long sur la conception de la politique selon Créon. Pour lui, Les êtres humains sont par nature immoraux. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Il faut donc un pouvoir politique fort, autoritaire et craint pour contraindre les citoyens d'une cité à tenir compte de l'intérêt général. Cette conception désabusée de la nature humaine était très répandue à l'époque. Créon exige du garde qu'il retourne auprès du cadavre et lui apporte le coupable. Sinon, le garde sera mis à mort. Le garde s'en va en se jurant qu'il ne remettra jamais les pieds devant Créon. C'est trop dangereux. L'excès d'autorité produit l'envie de désobéissance. L'ordre politique, fermement et brutalement imposé par Créon, est mis en question, bafoué, à peine il a été proclamé par le roi. Les 15 vieillards qui composent le chœur vont alors se demander comment une telle insoumission, comment un tel mépris de l'autorité est possible. Qu'est-ce qui pousse les hommes à désobéir et qu'est-ce que cela veut dire sur la nature humaine, sur la société ? Le chœur s'interroge et donne son opinion sur l'humanité. C'est là l'un des immenses avantages de la tragédie ancienne. Elle se donne le temps de respirer, de prendre du champ. Elle ne se laisse pas absorber par l'histoire qu'elle raconte. À intervalles réguliers pendant la représentation, un chœur de 12 ou 15 personnes chante et danse des chansons, des poèmes. Dans ces chants, le chœur essaye de comprendre ce qui se passe sur scène. Il ouvre la perspective. Une tragédie grecque, c'est fait, c'est construit sur ce contraste. Les moments où une collectivité chante et tente de dire ce qu'elle peut comprendre. Et les moments où les personnages individuels s'affrontent, chacun avec ses envies, ses volontés, ses décisions, avec son point de vue. Le chœur de l'Antigone de Sophocle fait une analyse étonnante. L'être humain, l'anthropos, dit-il, est un être terrifiant, capable du meilleur et du pire.
Combien de terreur ! Rien n'est plus terrifiant que l'homme.
L'être humain est faible, petit, face à la nature. Mais dans cette nature qui est beaucoup plus forte que lui, qui est divine, il arrive à faire ce qu'il veut. Il peut traverser les mers les plus hostiles. Il peut épuiser la terre pour la faire produire ce dont il a besoin. Il peut capturer ou domestiquer tous les animaux, même les plus féroces.
Il va par-delà la blanche mer, dans la tempête des vents. Il passe dans les vagues qui jaillissent. La divinité la plus haute, Gaïa, la terre, il l'épuise. Terre l'impérissable, l'infatigable. La charrue tourne d'année en année, et lui, il va, il vient avec la race des chevaux. Il jette en cercle les fils de ses lacets, et il mène le peuple des oiseaux, tête légère, et les tribus des fauves, et l'espèce qui vit dans l'eau de la mer, lui, l'homme habile. Il se rend maître par ses ruses de la bête sauvage qui court dans la montagne. Il amènera le cheval à la nuque hirsute sous un joug qui en serre son col, et aussi le taureau infatigable de la montagne.
L'homme est un être rusé, un technicien selon le chœur. Ce n'est pas vraiment un écolo. Il domine et exploite la nature à sa guise. Il domine beaucoup plus fort que lui, même les animaux les plus sauvages, les plus puissants, grâce à la ruse, grâce à ses pièges. Pourtant faible avec son petit corps fragile, l'homme s'en tire grâce à l'esprit, grâce à la réflexion, qui doit être rapide comme le vent. Il a compris que le mieux pour lui n'était pas de lutter, de faire front, mais de fuir, de se protéger et de ruser.
Il sait enseigner le mot, la pensée qui va comme le vent, les passions qui gouvernent les villes, et à fuir le ciel clair des gels inhospitaliers et les flèches des pluies méchantes.
Il n'y a qu'une limite que l'homme ne peut pas franchir, la mort. Tous les hommes sont mortels, sans exception. Mais l'homme est habile. La mort, il peut s'en servir comme remède s'il est atteint d'une maladie incurable. Elle lui permettra de se délivrer et de ne plus souffrir. L'homme est vraiment rusé, plein de ressources, sans limite. C'est bien ce que semble dire le cœur.
Devant la mort seulement, il ne trouvera pas de dérobade. Mais il a découvert la sortie des maladies sans remède.
Là où l'homme est terrifiant, c'est qu'il peut utiliser cette capacité à inventer, à fuir pour faire le mal, pour attaquer sa ville, pour ne pas obéir aux lois. Rien ne le retient. Il est libre et il a le pouvoir de transgresser les lois de sa ville comme il veut.
Il a les moyens de l'art, une science qui le conduit plus loin qu'il ne croit. Il va tantôt vers le mal et en d'autres temps vers le bien. Il s'exclut de la ville lorsqu'il fréquente insolemment l'immoralité. Il ne partagera pas mon foyer. Il ne partagera pas ma pensée, celui qui ferait cela.
À peine il a appris que l'ordre de Créon a été contesté, transgressé, que le cœur des vieillards de Thèbes propose ce tableau de l'humanité. Le moins qu'on puisse dire est que ce tableau est plus intelligent, plus profond que tout ce que Créon a pu affirmer avec son autoritarisme politique plutôt borné. Le cœur pense faire un tableau lucide, équilibré de l'humanité, de ses qualités et de ses travers. Mais a-t-il vraiment tout dit? A-t-il tout envisagé? Est-ce qu'on ne transgresse les lois? Est-ce qu'on ne bafoue l'ordre de la cité que par immoralité? Que parce qu'on refuse toute limite, toute contrainte? La suite de l'action, avec l'entrée en scène d'Antigone, va montrer le contraire. Le choc sera immense.
Tout le monde sait ce que c'est qu'une Antigone. Vous ne pouvez pas ouvrir le journal sans qu'il y ait une Antigone. C'est une passionnariat, c'est tout ce qu'on veut.
Jean Bollac, philosophe.
Alors c'est pas la pièce de Sophocle, ça c'est la pièce de Sophocle est un conflit. Par exemple, cette Antigone, elle a cette présence, cette relation à sa famille qui est morte. Donc il y a là un problème extraordinaire parce que Créon, il vit dans le présent et puis il dit maintenant on va mettre de l'ordre, il y a les agresseurs et les défenseurs et puis une ville, sa vie de ça. Et donc il y a des idéologies. Tirésias le devin, qui est le spécialiste donc des choses divines, il a la sienne. Et Créon, il a la sienne aussi. Et Antigone a plus forte raison. Alors c'est ça qui se heurte. C'est des entrechocs de conception.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Antigone, celle qui met en question la politique.
Antigone ne rentre pas du tout dans le cadre général que le cœur a si soigneusement et si intelligemment défini. Une grande surprise attend le cœur et Créon. Le garde, qui était sorti en se jurant de ne jamais revenir devant le roi, revient peu de temps après. Il tient prisonnière une jeune fille, la fille d'Oedipe, la nièce de Créon, Antigone. Le garde est soulagé, il a sauvé sa vie. Mais il est triste de mettre en danger une enfant contre qui il n'a rien et qu'il aimait plutôt bien. Le grand criminel, le grand rebelle tant redouté, qui menaçait l'ordre de la cité par son insoumission, était en fait une enfant. Ce que raconte le garde est surprenant. Il raconte qu'il a repris son tour de garde avec ses collègues près du corps de Polynice. Ils ont enlevé la couche de poussière qui le recouvrait, ce qui est un vrai sacrilège. Puis, ils se sont installés bien au vent du cadavre pour que l'odeur infecte ne les atteigne pas. Jour a continué sa course, dit-il. C'est midi. La chaleur flambe. Et d'un seul coup, une immense tempête de poussière se lève. Une trombe gigantesque monte jusqu'au ciel et envahit tout. On ne voit plus rien. Le corps de Polynice disparaît.
Là, subitement, un ouragan vient soulever une trombe de terre, douleur du ciel. Il couvre l'étendue, déchiquetant dans la plaine toute la chevelure de la forêt. Le vaste ciel en était rempli. Nous tenions bon en fermant les yeux devant la maladie divine.
C'est un signe des dieux, sans doute. La nature est malade, en désordre. La terre monte vers le ciel, s'y répand. Créon ne voulait pas que la terre recouvre le corps de Polynice. Mais cette terre est aspirée par le ciel, elle occupe tout. Les dieux veulent dire quelque chose, mais quoi ? L'ouragan se dissipe et le garde voit une jeune fille, tout près du cadavre. Elle hurle, elle gémit. Quand elle s'aperçoit que le corps de Polynice est entièrement découvert, nettoyé de la terre qui avait été répandue sur lui.
Et quand, après un long temps, l'ouragan se fut éloigné, on voit l'enfant. Elle gémit, pousse le cri strident de l'oiseau lugubre, quand il voit le lit de son nid désert, orphelin de ses petits. Quand elle vit le cadavre dénudé, elle a pleuré pareillement et poussé le cri de la lamentation. Elle a lancé d'horribles malédictions contre ceux qui avaient accompli ce travail. De ses mains, elle apporte vite la terre sèche et, levant haut le bronze bien martelé de la coupe, elle pose sur le corps la couronne d'une libation trois fois répandue.
Le garde s'empare d'elle. Antigone ne résiste pas, elle ne nie rien. Le garde la conduit devant Créon. C'est donc elle la coupable, Antigone, la nièce de Créon, la fiancée de son fils, Aimon. Créon ne se démonte pas, ne s'aime pas. En bon politique, il veut établir la culpabilité d'Antigone. Il lui demande si elle était informée de l'interdiction qu'il avait proclamée.
Est-ce que tu connaissais la proclamation qui interdisait cela ?
Comment pouvais-je ne pas la connaître ? Elle n'était pas secrète.
Et tu as osé passer par-dessus une telle loi ?
La loi. Le maître mot est lâché par Créon. Pour lui, il n'y a rien au-dessus de la loi. La loi est souveraine, il faut s'y plier. Antigone va répondre, sereinement, en se mettant sur le terrain de Créon. Elle répond du tac au tac et lui demande que sa loi ne vaut rien en comparaison des lois divines qui veulent qu'un mort soit honoré par ses proches. Antigone lui fait la leçon. Elle dit à Créon qu'il n'a rien compris. Il croit avec sa loi agir au nom de la justice. Mais il y a une justice chez les morts. Elle défend leurs droits, en accord avec Zeus, le dieu suprême.
À mon avis, ce n'est pas Zeus qui a proclamé ça, ni non plus la justice qui habite dans la demeure des dieux d'en bas. Eux, ils ont défini ce qui, dans ce domaine, doit faire la loi chez les hommes. Je ne pensais pas que tes proclamations avaient une telle force que l'on pût, étant homme, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui ni d'hier, et personne ne sait d'où elles ont surgi.
Antigone, c'est que selon la loi arbitraire de Créon, loi seulement humaine et non divine, elle doit mourir. Elle sait que Créon la condamnera à mort, mais pour elle, cette mort sera un gain, une délivrance.
Aucune pensée d'homme ne pouvait m'inspirer une peur qui allait m'engager à me faire punir par les dieux pour cela. Je savais bien que je mourrais, bien sûr, et même si tu n'avais pas fait ta proclamation. Mais si je dois mourir avant l'heure, je dis encore que j'y gagne. Comment ne gagne-t-on pas à mourir si l'on vit comme je le fais, accablé de misère ?
Ça, Créon ne pouvait pas le prévoir. Comment la mort peut-elle être un gain, un avantage ? ça n'entre pas du tout dans sa manière de voir les choses. Pour lui, la loi, l'autorité politique n'ont qu'un but. Permettre aux citoyens de vivre, et même de bien vivre, dans un monde ordonné et sûr, d'où les méchants seraient exclus. Le monde, pour Créon, se divise en amis et en ennemis. Il faut lutter contre les ennemis, se débarrasser d'eux et rester entre amis. On entend beaucoup cela dans ce que disent plusieurs de nos responsables politiques ces temps-ci. La menace de mort proférée par le chef est l'arme suprême pour calmer et terroriser ces méchants, ces ennemis de l'intérieur, à savoir tous ceux et toutes celles qui ne voudraient pas se soumettre. Or voilà qu'une gamine dit à Créon que la mort qu'elle attend sera pour elle un gain, un profit. Créon ne peut pas comprendre. En fait, il est éberlué. Non seulement cette petite fille lui désobéit, mais elle s'en vante et prétend lui apprendre ce qu'est la loi, ce qu'est la vie. Une gamine face à lui, une femme, prétend faire l'homme, prétend dire ce qui est juste et résiste. Il n'en revient pas.
Cette fille savait très bien qu'elle commettait un acte violent. Et maintenant qu'elle l'a commis, c'est une nouvelle violence que de s'en vanter et de rire de l'avoir fait. À présent, l'homme, ce n'est pas moi. L'homme, c'est elle, si ce pouvoir est reconnu à une fille comme elle.
Cela conforte Créon dans l'idée qu'il faut supprimer cette fille, et si possible sa sœur avec, Ismène, qui ne peut qu'être complice. Il faut libérer la cité de telle peste. Antigone, en fait, arrive à la même conclusion que lui. Ils ne peuvent pas se comprendre. Il n'y a plus rien de commun entre eux. Tout ce qu'ils peuvent se dire est insupportable à l'autre.
Veux-tu quelque chose de plus que te saisir de moi et me tuer ?
Non, rien. Si j'ai cela, j'ai tout.
Alors pourquoi attendre ? Puisque rien de ce que tu dis ne peut m'être agréable, ni ne pourrait jamais l'être. Et la même chose pour toi. Tu ne prends pas plaisir non plus à entendre ce que je dis.
On est au moment le plus critique, le plus tendu de la pièce. Rien ne va plus. Créon et Antigone, qui étaient si proches de la même famille, sont devenus des ennemis irréductibles. Pour Créon, c'est une situation parfaitement assumée. Il a le pouvoir, il a en charge la survie de la cité, et il peut décider qui est ami et qui est ennemi. Polynice, même mort, restera toujours un ennemi, ainsi que toutes les personnes qui le soutiennent, comme Antigone.
Jamais l'ennemi n'est ami, même s'il est mort.
Pour Antigone, c'est plus difficile à comprendre, et plus profond, plus intéressant. Oui, elle a désobéi. Oui, elle pense qu'il n'y a aucune amitié possible avec Créon, avec sa politique, avec son intransigeance. Chez Créon, elle ne voit que de la haine, de l'exclusion, de la violence. Elle, dit-elle, a choisi l'amour, le lien, la fidélité, par-delà la mort.
Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ce que j'aime.
La réponse de Créon est sans pitié. L'amour dont parle Antigone n'est pas de ce monde. Elle ne le trouvera que chez les morts. Les hommes, les vrais, sauront gérer comme il faut la vie des vivants, en se débarrassant des ennemis, hommes ou femmes, pareillement. Tout est politique, politique masculine.
Vas-y donc en bas, s'il te faut des liens noués là-bas. De mon vivant, une femme ne fera pas la loi.
Cette crise peut-elle se dénouer ? Un langage commun est-il encore possible entre les deux adversaires ? S'agit-il seulement de deux entêtés qui ne peuvent pas s'entendre et qui manquent seulement de sagesse l'un et l'autre ? Sans doute pas. Ce ne serait pas très intéressant. Nous sommes à peine à la moitié de la pièce. Si vous le voulez, nous verrons la semaine prochaine comment évoluent et finissent ces monstres sacrés, Antigone et Créon.
Jacques Lacarrière.
Antigone n'a jamais été une révoltée, une révolutionnaire, et elle n'est pas née, elle n'a pas grandi dans Gynécée avec des bombes sous son oreiller. Mais ça fait rien, son exigence est trop forte, et si elle se soumettait, ça veut dire que ce serait le règne de la tyrannie absolue, les tyrans ne rencontreraient aucune opposition. Et ce qui déconcerte complètement Créon, c'est que les tyrans, ils sont habitués à avoir des ennemis, tout le monde veut les tuer, mais un ennemi, ça ne lui fait pas peur. Il y a même une armée qui est en face de lui, il la combat, un adversaire politique, on discute. Mais une femme, une petite fille qui lui résiste, et en plus que sa nièce, il n'a jamais prévu ce type d'opposition. Et il est complètement décontenancé. Et le seul argument qu'il a, qui est très frappant, tout ce qu'il trouve à lui répondre, à ces arguments clairs d'Antigone, il dit « mais tu es folle ». C'est l'argument de ceux qui ne savent plus rien dire. C'est l'argument de tous les dictateurs devant des femmes qui exigent la justice élémentaire. Pourquoi est-ce qu'en Argentine, on a appelé, les dictateurs ont appelé les femmes, les mères, les sœurs, qui voulaient avoir des nouvelles de leurs frères, de leurs maris disparus, dont les corps avaient disparu, comme celui de Polynice? Ils les ont traités de folles.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.